Par Rupert, êtes-vous bien certain que c'est le bon chemin?
Lord Hamilton, selon les cartes, nous sommes à quelques centaines de mètres de la cité perdue de Babouk Makouk.
Babouk Makouk, la cité de Jade. Je la prendrai au nom de la reine d'Angleterre et cette région deviendra la possession de notre puissant empire britannique.
God save the Queen! Si les cannibales ne nous mangent pas avant!
Comment les cannibales? Ces tribus dégénérées? C'est ridicule! Vous avez peur de quelques macaques préhistoriques! Voyons, Père Rupert. C'est ridicule!
Ah! Ah!
C'est un lion affamé, fuyons!
Ben voyons, je suis pas un lion, je suis un cannibale!
Un indigène! Vite, Lord Hamilton, donnez-moi la Bible! Je vais enseigner à ce sauvage les voies sacrées du Seigneur!
Quoi?
Tout d'abord, faire pénétrer une bonne dose de lumière divine aux païens.
Oh! Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh!
De vigoureuses applications de l'Ancien Testament sont requises sur le sujet.
Ouch! Ouch! Ouch!
Continuez, père. Je crois que votre évangélisation porte ses fruits.
Alors, jeune brebis, comment vous sentez-vous? Alléluia! Nous avons un nouveau chrétien parmi nous. Réjouissez-vous tous!
Alors, cette semaine, nous recevons Marc Nadeau de Concept. Christian Lacroix nous parle jeu de rôle et nous avons un reportage exclusif sur le grand banquet de Bourgogne.
Ça alors? Déjà, un message céleste sort de la bouche de ce sauvage.
Cessez votre conversion, Rupert. J'aimerais connaître la suite.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale.
Mon petit bébé d'amour.
Et non, vous n'écoutez pas National Geographic, c'est bel et bien votre émission hebdomadaire sur le jeu Puissance Maximale avec François Gécouillard. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour à tous et puis surtout, bonne fête, parce que c'est la fête de la dinde aujourd'hui, il me semble.
Ah oui, l'action de grâce, là, un truc religieux là. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut enseigner, n'est-ce pas, aux païens de tout Akabi qui écoutent cette émission actuellement.
Exactement. Puis aujourd'hui, bien comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure lors de notre évangélisation en direct de la jungle profonde, surtout si vous pensez que vous pouvez reconnaître des personnages qui ont déjà existé à travers le temps, oubliez ça, toute ressemblance serait tout à fait fortuite et n'aurait absolument rien à voir avec la réalité ni avec l'histoire.
Alors dis-moi Sébastien, on était très occupés en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé à Rouyn-Noranda.
Écoutez, notre voix cassée et puis notre air à peine réveillé, ça vous explique un petit peu tout. En fait, on va vous l'expliquer encore mieux parce que en fait, il s'agit de quoi? De quasiment 24 heures aller-retour Rouyn-Noranda, Québec, 24 heures de route.
Pour les Extreme Board Games, le premier événement du genre qui rassemble alcool et jeux de plateau.
Oui, alcool qui a coulé à flot sous la forme de deux barils, en fait.
N'est-ce pas? Donc, expliquons aux gens c'est quoi l'Extreme Board Game. Oui, on en a parlé un peu.
Exactement. En fait, on l'a déjà fait la semaine dernière. Puis, juste pour faire un rappel très, très rapide, le résumé finalement, c'est qu'il s'agissait pour tous les participants d'amener un jeu qu'ils considéraient être le plus bizarre. Ça pouvait être un vieux jeu, ça pouvait être un jeu tout à fait récent, ça pouvait être un jeu qui était complètement introuvable ou qui avait à peine été édité.
Un jeu avec les règles incompréhensibles.
Exactement. Tout était accepté à partir du moment où finalement on avait envie de le vendre un petit peu. Parce que c'était l'idée de le présenter et puis d'essayer de devenir le vainqueur. Parce que à la fin des Extreme Board Games, après avoir joué à tous les jeux qui avaient été présentés, eh bien, nous avons voté pour le meilleur jeu, en tout cas celui qu'on a trouvé le plus intéressant.
Et le grand gagnant a assez mérité un CD de Normand Lamour, ce qui correspond tout à fait avec le jeu qui est présenté finalement.
Et aussi bizarrement que ça puisse paraître, la gagnante en l'occurrence était fort contente.
Ouais, d'ailleurs, c'est la seule qui aurait pu être contente, alors c'est une chance qu'elle a gagné. Et elle a présenté un jeu assez particulier qui s'appelait Pyramido Viewmaster, un truc comme ça, un jeu de 1983. Comment décrire un peu aux gens qu'est-ce que c'est le Pyramido? Bien, tout d'abord, c'est une espèce de gigantesque structure de plastique qui semble un peu brinquebalante, disons. Et qui prend environ 1h30, 2h à monter. Donc déjà là, c'est une épreuve, simplement construire le board du jeu. Le but du jeu, c'est d'utiliser le Viewmaster, qui est en fait une genre de visionneuse dans laquelle on peut regarder des espèces de petits diaporamas, n'est-ce pas? C'est une relique des années 80. Et on peut comme ça déterminer notre parcours à travers la structure de plastique. Et le but, c'est d'aller chercher de la clé. Et pour le reste, personne ne comprenait c'était quoi le but.
Mais c'était très beau, par exemple, hein, de se perdre dans les labyrinthes à travers la vision en 3D de ces petits engins. Là, c'est comme, en effet, c'était un gros retour en arrière, mais en même temps, c'est un jeu qui est tellement bizarre qu'il méritait réellement qu'il soit présenté. Je sais que tu avais présenté Naboo, épisode 1 de Star Wars.
Battle for Naboo, the 3D game. Donc, les jeux 3D est à l'honneur.
Oui, qui est passé en fait à deux doigts de réussir l'exploit, parce qu'il s'agit vraiment d'un exploit de finalement finir première position, un des jeux les plus curieux, parce qu'on peut se demander pourquoi ce jeu a été édité. C'est la question que nous sommes tous posés pendant toute la journée d'hier.
Donc, c'est un jeu Battle for Naboo, vous avez compris, c'est un jeu sur Star Wars. Donc, comment décrire ce jeu? Tout d'abord, il faut installer une espèce de gigantesque plateau de jeu qui prend environ une heure et demie à construire. Et la moitié de ce temps-là est utilisée pour construire la catapulte. Parce qu'il y a une catapulte qui retient la majorité de l'attention des joueurs, qui lance des Energy Sphere. Donc ça, c'est une sphère d'énergie, n'est-ce pas, en français. Et la boule d'énergie qu'on pitch dans une espèce de action board, ça permet de nous déterminer aux joueurs c'est quoi leur action ce tour-là. Et là, selon l'endroit où la boule atterrit, ça va déterminer les mouvements de votre armée. Le problème, c'est que la boule se ramasse tout le temps partout, sauf à l'endroit où il doit aller, donc par terre. Donc, on passe la majorité du temps à courir après la dite Energy Sphere. Donc, c'était pas mal ça, Battle for Naboo, the 3D game. Si ça vous intéresse, ben, vous pouvez appeler au 529-90-26. On vend ce magnifique jeu pour la somme de 25$.
Mais quelle merveilleuse idée. Puis, finalement, oui, c'est juste pour clôturer finalement cette petite intervention sur les Extreme Board Games de hier, Nous ferons évidemment, nous avons fait en fait la connaissance de jaune-jaune.
De jaune-jaune, la nouvelle mascotte des Extreme Board Games.
Exactement, que nous vous présenterons la semaine dernière, car en fait, le reportage qui a trait aux Extreme Board Games de la semaine dernière, qui paraîtra la semaine prochaine finalement, eh bien, nous contera les aventures de jaune-jaune, qui est un poulet sans poils.
Un poulet un peu dévergondé.
Oui, exactement, qui a tellement un beau cri du cœur. En tout cas, on vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Je pense, à mon avis, que vous allez être terriblement heureux de pouvoir découvrir les Extreme Board Games.
Oui, car on va avoir un reportage directement des Extreme Board Games. Sébastien Léonard va nous concocter ça. Mais pour l'instant, on va aller écouter une petite pièce musicale, histoire de se préparer pour Marc Nadeau, qui va venir nous parler d'une convention de jeu qui s'appelle Concept.
Puissancemaximale.com. Welcome to the jungle. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Et vous êtes de retour à Puissance Maximale, comme le disait Philippe Despalières, créateur des Loups-garous de Tiercelieu. Et aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Marc Nadeau de Concept, une convention de jeux de science-fiction pardon, et fantastique à Montréal.
Exact.
Bonjour Marc.
Bonjour. Oh, excuse.
Parlez un peu plus proche du micro, s'il vous plaît.
On le fait, on le fait.
Donc là, tu me parlais hors d'onde qu'il y avait toutes sortes de gens, de tripeux de science-fiction. Il y avait des Trekkers et des Trekkies, et c'était très différent de distinguer les deux.
Oh oui, oui, c'est une division qu'il a fallu faire à un moment donné, parce que malheureusement, les Trekkies étaient en train de nous donner une très mauvaise, pas une affiliation, là, juste pour m'amuser.
Ben c'était ouais. Donner une mauvaise
image de marque.
Une image de marque, oh merci.
Ça finit en sion aussi, hein, mais sauf qu'on l'entend moins.
Oh oui. toujours est-il donc que ces fameuses Trekkies-là qui sont des fans, un petit peu trop fans à notre goût. Alors, il fallait faire une distinction et puis dire, vous là, le 2, 3, 5% de un petit peu, vous n'êtes plus vraiment sur notre terre. on va faire la différence puis qu'on va être les Trekkers. Puis vous autres, restez Trekkies. Mais
okay, donc,
il nous fallait ça.
Trekkies, c'est vraiment extrême, tandis que Trekker, c'est quelqu'un qui tripe simplement sur les films de science-fiction.
Les films, les romans, évidemment, les séries télé, tout ce qui est hors normes ou anticipation. Dire, la planète est dirigée par des femmes au lieu des hommes. La planète est ci et ça, un univers. Donc, c'est toutes ces variations-là, souvent philosophiques, il faut le dire. C'est une question de base qu'on se pose, et puis là on se dit, oui, mais si c'était comme ça, et là ça part.
Okay.
Il y a évidemment l'aspect science, il y a l'aspect fantastique, où la différence est quand même majeure, de moins en moins maintenant, mais il y a quand même une différence. Le fantastique va surtout s'axer sur les sorciers, la magie, les arts.
Donc ça inclut ça aussi. Est-ce que ça peut inclure aussi les films de japonais, là, asiatiques avec les monstres et tout ça?
Les animés, oui, on retrouve aussi. En fait, c'est ça qui est un petit peu étonnant. C'est que la version française, vous allez voir, science-fiction et fantastique sont séparés. Et en anglais, non, c'est la même chose. Fantasy, fantastic, sci-fi...
Ah oui, c'est tous la même
pour eux autres, c'est la même chose. Okay. Fait que vous vous promenez d'une convention à l'autre et vous allez tout retrouver. Vous allez avoir les vampires, les magiciennes, les sorcières, les extraterrestres. Vous aurez un peu de tout. Alors.
Dis-moi, ça a lieu à Montréal, c'est ça? Est-ce que c'est la plus grosse convention de science-fiction et domaine connexe qui existe au Québec?
Au Québec, oui.
Est-ce qu'on parle de combien de personnes à peu près?
On parle un petit peu moins de 400 personnes à Québec. Non, si vous voulez aller le plus gros, ben là, il faut aller à Toronto où vous allez avoir 4000 personnes. Mais au Québec, si on parle ici de 400 personnes, c'est la semaine prochaine d'ailleurs, le 12, 13 et 14 octobre.
À partir de vendredi.
À partir de vendredi. Puis, et le vendredi va être un petit peu spécial cette année. Oh. On veut donner notre chance, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'on va louer les locaux, on va louer l'hôtel, on va tout faire ça, mais on laisse la place à tous les clubs, les conventions, faire ce qu'on avait dans le temps, il y a une dizaine d'années, on avait une convention spéciale qui s'appelait le Transwarp, sur laquelle, pendant 3 jours, les clubs, les conventions, pendant 3 jours, c'était « voici, rencontrez-vous, faites le échangez vos téléphones ».
C'était la jungle, finalement.
C'était la jungle, oui.
Oui, c'est clair. Dis-moi, justement, pour en revenir au thème de la jungle, est-ce que ça ressemble à quoi à l'intérieur? Je veux dire, on est dans une convention avec plein de Trekkies, plein de gens qui tripent à mort sur les mangas, Trekker, sur la science-fiction, sur tout ce qui est un petit peu complètement « flyé », entre guillemets. J'imagine que ces gars-là, ils doivent arriver, ils sont forcément costumés, non? Est-ce qu'on a des Philippe Picard, des Jean-Luc Picard, je veux dire, qui sont là avec des Chewbacca qui se baladent?
Il va falloir que vous alliez à Toronto pour les voir, ceux-là.
D'accord.
On en a très peu. Montréal, si vous voyez 10 personnes ou 15 personnes déguisées sur les 400, c'est déjà ça.
Okay.
Sauf évidemment pour la mascarade. Il y en a qui vont le faire uniquement pour la mascarade.
La parade.
Il y a l'espèce de parade déguisée.
La parade
où
de
ça
mode,
ne fait que
trackers.
Ça, là, c'est ça. Vous devez montrer votre costume et des fois, il y a un petit sketch qui vient avec. Là, ça dépend parce que le petit sketch, évidemment, il faut le préparer, donc il faut y arriver en groupe. Ça, c'est toujours bien apprécié, il faut le dire. Mais comme je disais, donc peut-être d'aller en voir une vingtaine le samedi soir à ce moment-là à cause de la mascarade. Mais autrement, c'est les gens habillés comme vous et moi. Il n'y a aucune différence.
Donc finalement, ça veut dire qu'on est très loin du cosplay ou des cosplays, par exemple.
Très loin.
Les conventions de manga où tout le monde est vraiment, c'est l'habitude, tout le monde est déguisé, tout le monde essaye de jouer un rôle vraiment au maximum de ce qu'on est capable de faire.
Ça, je pourrais vous en parler aussi. Là. On parle ici de la convention Otakutan de Montréal, où je suis aussi dans le conseil de comité organisateur. Mais comme on n'est pas tout à fait dans ça, je vais essayer de l'éviter, mais quand même, par la porte d'à côté, lui, oui, vous allez en avoir beaucoup.
Donc,
mais
là, on parle du concept. Tout à fait. On en a parlé un peu, la parade, entre autres, mais c'est quoi les autres activités qu'il va y avoir lors de cette convention?
OK. Donc, c'est une convention qui, à l'origine, était une convention littéraire. Donc, on voyait surtout des livres, des romans, et on invitait des auteurs. Par la suite, on a commencé à inviter des gens des séries télé et aussi du cinéma. Ce qui fait qu'il y a eu une petite déviation qui s'est amplifiée avec le temps. Ce qu'on va retrouver donc, dans cette convention, vous allez avoir des films d'auteurs. On a une salle réservée pour ça. On a une salle de jeu, donc c'est là que ça vous intéresse certainement. D'ailleurs, dans notre comité organisateur, il y a Christopher Amok, l'organisateur de RoyalCon, qui a fait sa deuxième édition, il n'y a même pas un mois.
Peut-être pour faire une petite parenthèse, c'est quoi le genre de jeu qu'on peut jouer à cet endroit-là?
C'est surtout de la démonstration plus que de... Parce que RoyalCon s'occupe de ça. Donc maintenant, on commence à séparer. Avant, on le faisait à concept parce qu'il n'y avait pas d'autres. Mais là, on commence à faire cette petite séparation. RoyalCon vient, on y donne quand même une salle, dit « Bon, ben si vous voulez montrer aux gens qui ne connaissent pas ça. » Parce que RoyalCon, c'est 150 personnes, on est 400. Donc on peut supposer là-dedans qu'il y en a peut-être 350 qui n'ont aucune idée de ce que c'est des jeux.
Effectivement.
Alors, c'est l'occasion de fenêtre ouverte. Voici les trucs de jeu avec les petites figurines, les trois dimensions. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ça, regarde ça. Waouh! C'est littéral.
Ça peut être des jeux de Star Trek avec des figurines miniatures, en attendant.
Oui, ça peut être Star Trek, mais je pense plutôt que c'est des trucs de combat style Halo 3, là, puis avec la petite planète.
Ah, puis ça, c'est plus populaire maintenant.
Oui, ils sont vraiment dedans, là.
OK.
Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, les panels, évidemment. Les panels. Ça, le concept est assez spécialisé, assez connu pour ces panels.
OK.
Vous allez voir, à ce moment-là, on a dit que c'est une convention littéraire avec aussi des acteurs. Et ils vont être là. Ils sont assis les 3, 4, 5 en avant. C'est tous des spécialistes qui ont des années d'expérience. Et puis... C'est déjà là, les écouter, c'est quelque chose.
Mais justement, c'est qui, par exemple, les invités que vous allez avoir?
Ça tombe bien, je l'ai sous mes mains. Notre principal, c'est David Weber.
OK.
Qui, je pense, je ne sais pas combien de millions de livres qu'il a vendus, il est là. L'autre, c'est notre Canadienne Tania Hoff.
OK.
Qui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez Space ou si vous êtes intéressé à ça, mais cette année, ils ont commencé la diffusion de l'émission Blood Ties. C'est elle.
Okay.
C'est elle la créatrice. Comme c'est le 25e anniversaire de Star Wars, oh là, j'en ai fait toute une. Jeremy Bullock, qui jouait le rôle de Boba Fett.
Oh, il va être là. Oh, je pense qu'il va attirer pas mal de geeks Star Wars.
Il pourrait en attirer, en effet. Et notre Québécois à nous, qui je ne sais pas combien d'Aurora il a gagné, Jean-Louis Trudel. Il passe.
Jean-Louis Trudel, c'est qui exactement?
Oh là!
Peut-être, les gens qui écoutent, ils ne connaissent pas nécessairement tout ça.
Ah, vous avez raison. Vous avez raison. Jean-Louis Trudel a gagné comme 8 ou 9 Aurora Awards. Aurora, c'est l'équivalent des Gemini ou des grands prix canadiens de la science-fiction. Il est enseignant à l'Université de Montréal en histoire, si j'ai bonne mémoire, une quantité phénoménale
de diplômes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit plein de livres, quoi?
Oh oui.
OK.
25 en français, une trentaine en anglais, je pense.
OK.
Et puis, il est finaliste d'à peu près n'importe quoi. Donc,
ben écoute, c'est génial. Donc, on rappelle que le concept, ça va être en fin de semaine, donc du vendredi au dimanche. Je te remercie, Marc Nadeau, d'être venu nous en parler gracieusement à Puissance Maximale.
OK.
Donc, sinon, passe du bon temps à Québec pour le peu de temps que tu seras là. Sinon, on va passer au quiz à qui. Et ça, c'est pas vraiment compliqué. On pose une question aux gens à la maison. Ils doivent appeler et ils courent la chance de gagner un prix. Cette semaine, c'est Montre-moi un dessin. C'est un jeu qui est fait par un Québécois. Et il y a Friedman Freeze là-dedans. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Toujours est-il que vous allez gagner ça plus un CD de Normal Amour, plus un acquis Activision, s'il nous en reste un. Il faudra que je vérifie. Donc, celui qui saura répondre en premier à la question suivante. quelle est la différence entre un Trekkies et un Trekker? Et vous appelez au 529-90-26, 529-90-26, et le premier qui appelle se méritera tous ses merveilleux prix et ça lui coûtera pas une scène. Donc, c'est cela. Sinon, Sébastien, je pense qu'on va se diriger vers peut-être une toune ou un reportage.
Vers un reportage, voyons donc, bien évidemment. En fait, c'était la semaine dernière, c'était le reportage du banquet, puisque la semaine dernière, nous étions... la semaine dernière, c'est ça. Mon Dieu, que le temps passe terriblement vite, hein, c'est vraiment ça. Nous étions parmi nos amis des médiévalistes de Québec.
Médiévistes.
Médiévistes, finalement, c'est comme ça que ça se prononce. Puis qui nous ont fait le plaisir et le grand honneur de nous inviter au banquet de Bourgogne pour fêter en leur présence et puis autour de tous ces gens costumés en mangeant de la très 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 bonne bouffe. En tout cas, restez avec nous, on va tout de suite revenir après ce petit reportage.
Vous écoutez toujours Puissance Maximale.
Viva! Viva! Viva!
Le 30 septembre 2007 se tenait le grand banquet de Bourgogne. Tout d'abord, il faut préciser que malgré le nom, ce n'est pas situé dans une région française. L'événement se trouve bel et bien à Québec et a lieu plusieurs fois par année. C'est organisé par l'AMQ, Association médiévale Québec, un regroupement de fanatiques de l'époque médiévale et une compagnie d'animation professionnelle. C'est l'endroit rêvé pour boire, manger et s'amuser en leur joyeuse compagnie. Par contre, pas de doute, c'est bel et bien un banquet. Avec quatre services copieux, entrée, bouillasse, tourte, boeuf bourguignon et crêpes, on ne peut pas se tromper. Chaque aliment sont soigneusement choisis pour respecter l'histoire. Tout ingrédient inexistant après le 15e siècle y est banni. Le navet y était donc à l'honneur. Mais attention, il convient de ne pas confondre grandeur nature et reconstitution.
Dans les grandeurs nature, la différence, c'est qu'il y a des elfes. Il va y avoir des trolls, il va y avoir des personnages obscurs, des personnages de la nuit. Il va y avoir des démons.
Ouais.
Tandis qu'ici, c'est tout historique, tout à fait historique. Tous les costumes que vous voyez ici sont tout à fait historiques. On fait tous des personnages qui ont soit déjà existé ou qui ont des rapports avec ceux qui ont déjà existé. Comme moi, mon Lord, c'est Lord William Marshall, il vient de l'Angleterre. C'est une personne qui a vraiment existé. Mais moi, je suis venue me joindre à son histoire.
Tu es à mi-chemin entre un club social et un groupe de scouts. On peut y pratiquer ses talents martiaux à l'épée de bois ou de métal sans contact, jouer aux échecs ou aux jeux de paume, l'ancêtre du tennis, et même assister à des séances de formation historique. Les gens fraternisent en partageant leur amour commun pour l'époque des chevaliers. Les femmes sont très représentées dans les reconstitutions, même si elles ont encore un rôle très traditionnel.
Mais il y a beaucoup de femmes. Les femmes, la majorité, s'occupent des cuisines. S'occupent des cuisines, font la nourriture pour les banquets. Il y a les esprits qui servent. Mais les femmes, majoritairement, c'est plus la cuisine.
C'est pas très
la
drôle,
cuisine, la danse,
ouais.
Où ils font de la couture, de la broderie.
Les reconstitutions n'ont pas échappé à l'émancipation des femmes et on voit de plus en plus des femmes prendre l'épée.
Je te dirais, il y a 3 ans et demi, quand j'ai commencé, moi et Dame Eliane, on était les deux seules.
Ouais, ouais.
Puis là, il y a plus t'en vas, plus qu'il y a des femmes qui nous regardent. Ah, tiens, ils se battent à l'épée, eux. On pourrait peut-être essayer, nous aussi.
C'est perçu comment par les hommes,
ça? Ah, ils sont contents. Ils aiment ça, ça leur fait des différents challenges. Parce que les hommes, eux autres, leur force à combat l'épée, la force. Ils sont forts, ils sont très habiles, mais nous, les femmes, on est très rapides à comparer des hommes. Donc, on leur amène un challenge que eux, entre hommes, ils n'ont pas. Mm. Eux autres, c'est la force, la précision. Nous autres, c'est rapide. Rapide, rapide. Fait que bien souvent, les coups, ils ne vont pas arriver.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Mais dis-moi,
Ce qui est remarquable, c'est non seulement l'organisation, mais aussi les participants. Plusieurs d'entre eux sont artisans, créateurs, artistes. Certains raniment des métiers pratiquement disparus, comme celui de forgeron ou de druide. Leur culture est impressionnante. Leurs connaissances touchent autant à la cuisine, les vêtements, la guerre, la science et l'histoire médiévale. Et ils s'y connaissent, à part ça, impossible de leur en passer une petite vite.
À l'époque, c'est ça, on essayait d'avoir les enfants le plus tôt possible. C'est la recherche du mâle. Bon, ça n'a pas changé à ce niveau-là. Alors, mais c'est ça. Dans le groupe, c'est vraiment l'échange. Mais c'est ça. Il y a des maîtresses, on soupçonne des choses, mais c'est des discours de corridor. Voilà, d'un corridor de château.
Il existe bien d'autres groupes du genre au Québec. Le duché de Saxe, à la Pocatière, par exemple, est relativement similaire à l'AMQ. Ce groupe incarne donc fidèlement, par ses habitudes, sa façon d'être et par certains éléments du langage, le Saint-Empire germanique du XIIIe siècle. Des groupes similaires, il y en a partout au Québec. Lors de l'événement, il y avait un groupe du lac Saint-Jean et un autre de Trois-Rivières.
Ben nous, ça doit faire... on a roulé tout l'été, on en a fait plusieurs événements, plusieurs festivals. Mm-hmm. Puis dans les banquets, il y en a un par Mesny. Ça veut dire qu'il y a peut-être 6 banquets dans l'année.
D'accord.
Qui roulent comme ça.
Si l'époque médiévale est révolue depuis longtemps, nul doute que les membres de l'AMQ la font revivre par leur manière. Car être médiévaliste, c'est une manière de vivre. Plusieurs d'entre eux possèdent même leur propre cheval, d'une race qui correspond à celle utilisée à l'époque, bien sûr. Rappelons que l'AMQ sont aussi les créateurs du plus grand trébuchet de l'Amérique du Nord.
Il y a des trips à avoir épouvantables. À Saint-Marcellin, on a bâti un trébuchet grandeur nature. Là. Cette année, là, on a tiré. Là, à... On s'occupera jamais de ça. Là. On se fait du fun épouvantable. Là. Ah, c'est magnifique! Et là, cette année, en plus, on donnait les ordres assis sur nos chevals. Trébuchet! C'était d'un magnifique, là.
Surveillez le festival annuel de Saint-Marcellin pour voir cet impressionnant engin de siège en fonctionnement avec vos propres yeux.
C'était un reportage de Sébastien Léonard et François Gécouillard. Puissancemaximale.com.
Bonjour, je suis Fredon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, Fredon lui-même écoute Puissance Maximale. J'espère que vous avez apprécié le petit reportage de Sébastien. Félicitations d'ailleurs. Excellent reportage. Donc, c'est François Gécouillard qui vous parle et nous avons avec nous Christian Lacroix, notre chroniqueur spécial jeu de rôle. Salut Christian.
Bonjour. Effectivement, le jeu de rôle, c'est sérieux, donc c'est le nom de la chronique, c'est une première. Alors donc, étant donné que c'est une première, je vais définir un peu qu'est-ce qu'un jeu de rôle.
Les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, ouais, vas-y fort, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de
rôle? Parce qu'on sait c'est quoi un jeu vidéo, tout le monde en a fait, des jeux de plateau, mais un jeu de rôle. Pourtant, tout le monde en a fait parce que dans l'enfance, tous les enfants, c'est universel, dans toutes les sociétés, on prétend jouer un rôle, donc que ce soit le fameux docteur avec les patientes, bon, ou ça peut
jouer
être...
Jouer au docteur, c'est un jeu de rôle, effectivement.
Ben, à la limite, oui.
Un jeu de rôle très agréable.
Très agréable, oui, effectivement, on découvre plein de choses. Donc, il y a les cow-boys et les indiens, bon... mais évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas de structure de règles. Donc, ça mène à des... et on n'a pas de maturité, donc ça mène à des trucs genre « paf, paf, t'es mort. Non, je suis pas mort. Hey, je joue plus. » Bon. Alors, et beaucoup d'égo blessé, tout à ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en vieillissant, on structure ça, on organise des règles pour enlever l'arbitraire et donc rendre ça un peu plus intéressant. Et évidemment, par contre, on ne joue plus dans les parcs, on s'assoit autour d'une table. Bon,
est-ce qu'on peut jouer dans la jungle?
Dans la jungle, oui. Quoique les livres n'aiment pas l'humidité, généralement. Ah. Mais enfin. Donc, souvent, il y a aussi une préconception, là, une espèce de mauvaise perception. On imagine les gens dans un sous-sol humide. on vient souvent là-dessus. c'est pas complètement faux, mais par contre, je pense que la clientèle évolue. Il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Donc, s'élargir. Ouais, la clientèle commence à s'élargir. L'offre, il faut dire, est tellement rendue vaste. Autant on est dans la science-fiction, dans les thèmes explorés, dans les styles, c'est vraiment fou.
Mais dis-moi, tu es en train de détruire un mythe, là. Tu es en train de nous dire que finalement, les joueurs de jeux de rôle ne jouent pas dans leur cave.
En fait, je dirais qu'il en reste encore, bien entendu. C'est juste qu'il ne faut pas se limiter à ça seulement, je pense. Ça serait un peu... quand même, il faut sortir de ça. Donc, et d'ailleurs, je pense que c'est la mission de Puissance Maximale, entre autres. Hein, c'est
de faire sortir les gens des sous-sols.
Voilà. Voilà.
De faire les stéréotypes.
Oui, de faire les stéréotypes. Donc, voilà un peu pour la présentation des jeux de rôle. Maintenant, moi, le but de la chronique, c'était surtout de parler de l'émergence de la scène indépendante, donc des jeux de rôle qui est en train d'exploser. Et pourquoi? Ben, c'est lié à l'émergence du web, de l'Internet. Donc, ça fait plusieurs années que ça se fait. Le web a permis de créer des communautés de créateurs. Au départ, souvent, c'était des fans, des gens qui aimaient bien tel style de jeu. Ils se réunissaient ensemble dans un forum et on discutait des règles. Et on modifiait
les règles.
Ils font
leurs propres règles, ils font des scénarios, des trucs comme ça. Et c'était gratuit, les gens pouvaient aller les chercher puis les essayer.
Donc, c'est ça. Et les gens, de plus en plus, voulaient développer ça. Dans le fond, là, on serait peut-être mieux de commencer carrément un nouveau système. Ben oui. Puis là, ils se mettaient à plusieurs. Maintenant, la mode, c'est les wikis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça permet de faire des créations collectives. C'est très évolué. Donc, c'est de plus en plus comme ça que ça se fait. Et souvent, justement, les premières versions, qui sont un peu, on s'entend, brouillon, on les rend disponibles à la communauté. Les gens peuvent télécharger ça, c'est gratuit.
Donner leurs commentaires, puis comme ça, avoir un meilleur jeu.
Exactement. Donc, on fait du testing et on revient. Et ensuite, souvent, c'est l'autre étape. Il y a des gens, des collaborateurs, par exemple. C'est une association de talents. Par exemple, un graphiste, un artiste va dire « Ça m'a inspiré ton jeu, voici mes croquis. » Ah, ben là, l'autre va les garder, va les intégrer dans le produit final. Et quand le produit est assez mature, assez mûr, ben là, on le lance. Souvent, on met un petit prix lié à ça. On fait une maquette un peu. Mais souvent, on se limite à les versions électroniques. Et si ça génère assez de profit, ben, il n'y a rien qui empêche de passer, de trouver un éditeur. Hey, j'en ai vendu tant de PDF. C'est parfait, il y a un marché, on lance ça.
Donc, on commence par la version Internet, puis après ça, peut-être en format papier.
Tout à fait.
Je pense justement qu'on a un bon exemple. Il y a quelques semaines, on a rencontré les gens de Studio Mammouth. Les autres nous disaient justement qu'ils fournissaient leur jeu de rôle en format PDF et les gens pouvaient les télécharger avec un moindre coût, dans le fond.
Oui, tout à fait, pour environ entre 12 et 15 $, même pas. Donc, vous avez un jeu très bien fait et il y a des démos qui sont disponibles. Donc, je peux vous donner un site, entre autres, vous pouvez aller voir ça. C'est le site www.indie, avec un E, INDIE-RPG.info. C'est un site en français. Et c'est un centre d'achat, si on veut, virtuel. Et vous avez des démos sur les jeux. Peut-être rapidement présenter les quatre jeux qu'ils offrent, en gros. Donc, le premier, c'est X, H-E-X. Et ça se passe dans le 19e siècle. C'est surtout le thème des sociétés secrètes, etc. Donc, c'est un peu d'horreur. Un peu de...
ça serait pas un peu Steam... comment ça s'appelle dans ça?
Steampunk.
Steampunk, ouais, c'est ça?
Oui, un peu Steampunk, mais surtout, je pense, c'est les sociétés secrètes et puis tout ça.
Conspiration, un peu, peut-être.
Oui, hein? Puis un peu de fantastique, là, donc lié à ça. Alors, c'est des enquêtes, c'est beaucoup d'ambiance, un peu horreur. Ensuite, il y a mon préféré, c'est Wuxia. Ça traite de la Chine de légende. Donc, tous les films là, de kung-fu, héros, tout ça.
Tigre et lion.
Oui, tigre et dragon, tout ça. Donc, ça a beaucoup de spectacles très cinématiques.
Ça, c'est dans la jungle, hein, faut pas oublier.
Oui, la jungle, ouais, les animaux. Alors, on est dans le thème. Alors, donc, on peut jouer à un sorcier taoïste qui fait de l'alchimie, ou un moine Shaolin, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite,
Il y a Robot aussi, hein? Je pense que le
centre est voilà, ça. Robot, j'allais en parler. Oui, Robot, c'est fascinant parce qu'il n'y a aucun humain là-dedans. Donc, c'est très rare.
C'est une espèce de post-apo où tous les humains ont été zigouillés. Il y aurait juste des robots.
Voilà, et on joue, donc, on incarne un robot. Et donc, on peut le mettre à sa propre... le personnaliser, si on veut. Donc, si on veut donner un rôle un docteur, ben là, on y ajoute des modules comme ça, donc de docteur. C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que eux autres, tranquillement, ils évoluent, et ils deviennent comme sensible, il commence à se questionner.
C'est ça, parce que comme dans tous les bons romans de science-fiction, les robots sont toujours un petit peu weird, un petit peu imparfaits, un petit peu déjantés. Là.
Voilà, donc il développe une personnalité et des questionnements humains. Il ressemble de plus en plus à des humains. Donc, c'est au niveau là, du jeu, il y a beaucoup de potentiel là, au niveau de l'incarnation. Ensuite, le dernier, c'est Réalité 2015. C'est la science-fiction avec un peu de fantastique parce qu'il y a des mondes parallèles là, qui commencent à apparaître. Là, il y a des espèces d'entités qui veulent nous envahir. Donc, là, on joue des membres de la loge qui ont des pouvoirs pour essayer d'empêcher l'invasion de l'humanité. Donc, ça, c'est plus un peu post-apocalyptique encore. Pas vraiment, mais en tout cas,
que,
science-fiction.
Moi, ce que j'avais l'impression en parlant aux gens de Studio Mammouth, c'est que oui, ils sortent leur jeu en PDF. Et si on regardait leurs jeux, c'est des softcovers, c'est des livres très petits, ce qui nous change justement des livres assez épais qu'on a l'habitude, là, les jeux de rôle souvent, c'est des livres très épais avec des règles très condensées. Les autres, ils me disaient que la nouvelle tendance, c'était justement des règles simples, puis si t'aimes le jeu, tu vas acheter des expansions. Je trouvais que c'était une belle vision des choses.
Oui, tout à fait, parce que c'est pas évident avec l'augmentation des prix. Là, on est rendu avec des manuels de presque 70$ parfois, donc c'est pas tout le monde qui peut se lancer là-dedans. Tandis qu'un livre de 30$, puis après ça, si tu l'essayes, puis avec la version PDF encore à moindre prix, puis des démos, des extraits, alors c'est vraiment pratique pour essayer. Peut-être un autre exemple québécois encore, c'est par contre c'est en anglais. C'était développé par un Montréalais qui s'appelle Pierre Cacos, que vous avez rencontré, je crois.
Lesser Shades of Evil.
Oui, Lesser Shades of Evil. Donc, qui est publié par EOS Press et c'est vraiment un jeu là, somptueux, vraiment de niveau professionnel. On regarde le produit final, puis écoutez, c'est illustré par des géants comme Larry Elmore et compagnie. Donc, même au niveau graphique, ça n'a rien à envier à une production de Wizard of the Coast ou les gros noms là, qu'on connaît. Donc, c'est surprenant parce que c'est un gars qui a fait ça, le fameux monsieur Cacos, qui a développé ça. Et il s'est même endetté pour payer les illustrateurs, les graphistes qui ont fait le produit. Donc, il fallait vraiment qu'il croie à ça. Et il est arrivé au bout de son rêve. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça.
D'ailleurs, on salue, je pense que c'est Michel Turgeon, son nom, celui qui a créé Destination Far West, qui s'est endetté de 50 000$ pour faire son jeu aussi. Donc, quand on est créateur de jeu, ça peut souvent coûter cher.
Oui, mais on espère, on lui souhaite du succès pour ce travail-là. Donc, et en gros, là, Lesser Shades of Evil, écoutez, ça, c'est dur à décrire honnêtement parce que c'est tellement détaillé, c'est tellement riche. Ça mélange le post-apocalyptique, donc c'est la fin d'un monde, mais il y a de la science-fiction énormément là-dedans, même tellement qu'on a inventé l'immortalité, on a à peu près tout inventé là-dedans. Donc, on joue à la base un Angelion qui est un immortel carrément, donc c'est pas rien. C'est vraiment un gros trip de pouvoir avec ça, là, parce qu'on peut presque tout faire. On peut changer de corps à volonté, pratiquement, là, presque. Donc, c'est autre chose. Et ensuite aussi, mais on peut incarner aussi des mortels qui sont pris là-dedans. Alors,
que ça, c'est pas mal plus poche.
Ouais, ouais. Mais t'en as plusieurs, parce que ça marche par points. Il y a des attributions de points. Donc, si tu es un mortel, t'es moins puissant, mais tu peux en jouer à presque un petit clan. Ouais. Là. Donc, ouais, si t'en perds un, ben t'as encore ton clan pour continuer. Donc, c'est une autre vision. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. La génération de personnages, justement, c'est des archétypes. Il y a même des golems, là. C'est des créations artificielles, mais qui se rebellent. Ça peut être ça. Ça peut être des monstres. On peut jouer, et aussi le titre Lesser Shades of Evil, là, c'est vraiment au niveau de la moralité. Là. Le jeu est basé sur... Il n'y a pas de bons et de méchants, vraiment, parce que les rebelles qui sont en train de détruire le monde, eux, c'est pour rebâtir d'une meilleure façon. Ils trouvent que c'est un mensonge, tout ça. La religion qui est imposée, ils trouvent que c'est de la manipulation. Ils sont contre ça. Donc, alors, c'est intéressant parce que les méchants ne sont pas si méchants que ça.
Dis-moi, Christian, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. Je pense que tu avais des petits bémols peut-être à dire au jeu.
Oui, ben enfin, petit bémol. Ma réserve, oui, si on veut, c'est que il y a des règles assez stratégiques. C'est très intéressant, là, les concepts, sauf que ils sont lourds à gérer. Ça prend des joueurs expérimentés. Peut-être que je le conseillerais pas pour les débutants parce que l'approche est assez lourde. Donc, je le conseillerais plutôt pour les joueurs là, qui ont déjà connu plusieurs systèmes, bon, plus de facilité.
En parlant de ça, justement, peut-être que tu pourrais conseiller... justement des scénarios ou des jeux qui seraient plus adéquats pour des débutants, ça serait quoi?
Ben enfin, bonne question. Ça dépend beaucoup du groupe d'âge aussi, de ce qu'on recherche, parce que les débutants, moi je travaille dans une école et puis mm-hmm. Donc, avec des jeunes, c'est sûr qu'eux sont intéressés par Donjons et Dragons, le grand-père des jeux. ben pourquoi? Parce que c'est facile, c'est des archétypes, là, le magicien. Et donc, c'est assez simple d'approche. Aussi, c'est veut pas, les jeunes vont vouloir du pouvoir, de la puissance maximale, justement.
donc, mais pas juste les jeunes, hein?
Pas juste les jeunes, mais et généralement, plus tard, on joue d'autres choses, comme souvent, moi, je me plais à jouer, bon, mettons, des filles, des personnages féminins, parce que c'est une autre réalité. Puis là, ça t'oblige à complètement revoir. T'as un instinct de réagir, des fois, d'une façon typiquement mâle. « Hey, là, ça va faire, je cogne sur la table. » Mais là, tu dis « Non, je peux pas, je suis une fille. » Puis je l'avais décrite comme étant plus délicate, plus... donc, oups. Alors, tu peux jouer un infirme, une personne malade. Et puis, la quête aussi peut changer. Ça peut être, au lieu de vouloir sauver la planète ou sauver le royaume, ça peut être simplement de... T'as une maladie dégénérative et qui empire tranquillement avec le temps.
Tu essaies
de te guérir, tout simplement. Donc, on peut baser une campagne là-dessus. Ça, par contre, avec Donjons et Dragons, on n'est pas capable. Donc, moi, je recommande peut-être GURPS, entre autres, qui est un système générique où on peut tout faire. On achète les livres de base, puis après ça, il y a une myriade de suppléments.
Tu fais vraiment ce que tu veux avec ça.
Oui. Alors, on choisit selon les goûts.
Ça tente de jouer à l'époque médiévale ou dans un vaisseau spatial ou dans une autre dimension, il n'y a pas de problème.
Exactement. Donc, moi, je recommande ça. C'est vraiment... puis, on apprend... L'avantage, c'est qu'on apprend un système. Et puis après ça, on est correct. On n'a pas une myriade de règles avant.
Ça veut dire que tu vas revenir à l'émission pour justement nous présenter toutes ces merveilleuses choses qu'on va pouvoir faire pour les débutants, pour les personnes expérimentées. Puis aussi, ton expérience à l'école, ça risque d'être très, très intéressant qu'on en rediscute.
Ah oui, j'ai plein d'idées de chroniques, inquiétez-vous pas.
En tout cas, on a bien hâte de te revoir. Puis merci encore d'être passé à l'émission. Hein.
Ça fait plaisir, merci à vous.
Sinon, on se dirige vers les nouvelles insolites tout de suite après le jingle. Merci, Christian.
Merci à vous.
Sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximale.
Alors, en fait, tu restes avec nous, Christian. On va parler de nouvelles insolites. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde du jeu? Eh bien, peut-être faire un petit clin d'œil à Binox, qui a récemment, le 5 octobre dernier, a eu un prix comme étant le meilleur... il a gagné le troisième prix de la catégorie du défi meilleur employeur 2007. Et donc, ça a été octroyé par l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Donc, ça fait de Binox le troisième meilleur employeur de Québec. Donc, félicitations à Binox, une petite compagnie
Dieu
de jeux vidéo.
Et Dieu sait que c'est difficile pour les compagnies, justement, de jeux vidéo de conserver leurs employés.
Ouais.
C'est très, très compliqué. D'ailleurs, il y a juste à aller sur leur site pour voir à quel point ils essayent de vanter tous les mérites de la ville de Québec et de ses beautés juste pour attirer les meilleurs ou tout simplement des employés. D'ailleurs, ça fera sûrement... le sujet d'une prochaine chronique, j'en suis sûr.
Peut-être aussi. Une entrevue avec ces gens-là. Ensuite de ça, au sujet de Halo, hein, tout le monde connaît Halo. Halo 3 est sorti récemment. Donc, une semaine après son lancement, Halo 3 a cumulé des ventes de 300 millions de dollars à l'échelle mondiale. C'est pas rien, n'est-ce pas? Ça, c'est un jeu. Est-ce qu'il y a des épisodes de jungle dans Halo 3? Je pense que oui. Hein?
Oui, un peu.
Bon, OK, c'est bien, ça fit en plus avec le terme. Donc, donc est-ce que l'avenir de la franchise est assuré? Parce qu'avec 300 millions de dollars, on pourrait le croire. Mais il semble qu'il y a des rumeurs qui persistent à dire que Bungie, qui fabrique habituellement le jeu Halo, se retire de la franchise. Ils ne veulent plus faire de suite. Ils ne veulent plus rien faire sur Halo. Mm-hmm. Donc, peut-être qu'ils sont tannés de Bill Gates. Hein? Qui sait? Je ne sais pas.
Mais le problème aussi avec ce genre de franchise-là, c'est que plus on augmente, plus on doit dépasser toujours ce qu'on a fait avant. Donc, à un moment donné, on atteint un point, là, on sait qu'on ne peut pas faire mieux. Mm-hmm. Alors, c'est peut-être mieux de se retirer dans ce temps-là. Puis aussi, le coût, il faut calculer le coût des campagnes de publicité,
tout à fait,
de marketing, qui ont été, je pense, c'était plus de 100 millions. Là, je ne me rappelle plus, mais le chiffre est faramineux.
D'autant plus que pour Halo, je pense qu'ils avaient mis un énorme budget sur la recherche et développement. Je pense que c'était vraiment un des points très, très importants. Ils sont allés chercher des statistiques affolantes et incroyables sur le gaming, sur la façon de jouer. Je pense que le phénomène Halo n'est pas fini aussi de faire parler de lui-même.
Mais notons quand même que, pour une rare fois, Microsoft a réussi à percer le marché japonais. D'habitude, c'est un marché qui est inaccessible à Microsoft. Donc, ensuite, ça c'était en passant, il faut que je dise la source, c'est jouer.com. Je t'en ai de ne pas dire les sources. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un jeu... qui titille l'église anglicane de Britannique. Donc, c'est le jeu Resistance Fall of Man, donc Résistance à la chute de l'homme. Donc, il y a le révérend Rogers Govender de la cathédrale de Manchester. C'est peut-être un des petits cousins du père Rupert qui a demandé de retirer la nomination du jeu Résistance Fall of Man de la British Academy of Film and Television Arts. C'est un genre de disque britannique.
Mais sans faire une hérésie, je pense que le docteur Rupert ou le... En tout cas, il était catholique alors que l'autre est anglican. Donc, ne faisons pas d'hérésie, s'il
non,
te plaît.
Non, il
ne
faut pas, surtout pas. Donc, M. Govender, il est scandalisé, en fait, que la cathédrale de Manchester soit représentée dans le jeu, hein, Fall of Man. Donc, il a demandé de retirer sa nomination à un gala. Et donc, les officiels de l'Église d'Angleterre ont été très critiques par rapport à l'utilisation de cette cathédrale-là. Parce que surtout qu'il faut dire que la cathédrale est un lieu de bataille entre des extraterrestres qui envahissent la Terre et les humains. Donc, évidemment, c'est un petit peu dégradé, la cathédrale. Ils ont dit que ce jeu était un sacrilège! Ils ont demandé des excuses.
Blasphème.
D'enlever la cathédrale du jeu. Et ils ont demandé aussi une subvention, une donation substantielle à l'Église comme forme de réparation, n'est-ce pas? Comme quoi les voies du Seigneur sont impénétrables. Et Sony a réagi en s'excusant, d'accord? Et ils sont excusés à l'Église et à la population de Manchester, mais l'Église est évidemment restée dans le jeu et l'histoire ne dit pas si Sony a donné, a payé une indulgence aux institutions religieuses. Et notez que les plaintes des religieux n'auront réussi jusqu'à maintenant qu'à faire augmenter les ventes du jeu. Donc,
ouais.
Félicitations. La source était The Escapist. Sinon, est-ce que tu as des nouvelles, Sébastien?
Les Extreme Board Games ont eu lieu la fin de semaine dernière. C'est ça, les nouvelles insolites de mon bord.
All right. Donc, sinon, on va aller se diriger vers l'agenda ludique de la semaine.
Bonjour, je m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo.
Fin. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde du jeu, dans la jungle du jeu? D'ailleurs, tu vas pas mettre un petit fond de jeu?
Mais oui, je vais te remettre ton David Lynch que tu préfères et que tu aimes tant.
Ah là 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 là. OK. Donc, évidemment, comme à chaque semaine, c'est pas compliqué. Le lundi soir à l'Astradamus, qui est un bar situé sur la rue Couillard, il y a des parties de jeux de plateau. Sinon, mardi prochain, demain, au Café Aga, il y a des parties de Go, n'est-ce pas? C'est un jeu de plateau. Et en fin de semaine, il y a les Seigneurs de Naguère qui ont toutes sortes de jeux, des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux de figurines miniatures au sous-sol du pavillon La Certe à l'Université Laval. Et du vendredi à dimanche, ça va être le congrès de science-fiction et fantastique de Montréal, Concept.
Et n'oubliez surtout pas d'aller sur le site internet de Puissance Maximale où vous allez retrouver le calendrier de Puissance Maximale sur lequel... En regardant un petit peu plus loin qu'une semaine, vous allez pouvoir toutes les merveilleuses choses qui s'en viennent parce que ça risque d'être très, très chargé encore sur les prochains mois et les prochaines semaines. C'est assez impressionnant le nombre d'événements qui s'organisent. D'ailleurs, événements dans lesquels Puissance Maximale est encore et toujours présent, en fait. Ça devient...
On est vraiment hyper actif. Là, je suis pogné dans le milieu de la jungle. Comment faire pour aller sur le site de Puissance Maximale?
Tu tapes sur Google. Non, non. Mais en fait, tu prends tes petits doigts, tu prends ton clavier qui est devant toi, et puis tu allumes ton ordinateur, toujours, avant, parce que c'est toujours important. Après t'être connecté sur Internet, tu ouvres le serveur, et puis là, tu vas taper www.puissancemaximale en un seul mot unique, sans majuscule, sans rien, sans tréma, et à la fin, tu vas finir avec .com, et là, tu vas pouvoir découvrir énormément de nouvelles insolites et des nouvelles justement de la semaine dernière et des dernières semaines, mais aussi toutes les émissions depuis le début de Puissance Maximale.
Vous allez pouvoir écouter nos voix voluptueuses à satiété. Donc, est-ce que c'est compliqué, puissancemaximale.com? Néon, c'est pas compliqué. Donc, sinon, ça va être la conclusion de l'émission. Virgin to the end. Et sinon, on se laisse avec Homologue. Ciao, à la semaine prochaine.
1, 2, 3, 4, yeah!